Bonjour à tous, dans cet enregistrement, je vais vous faire un petit résumé d'un article que j'ai écrit pour donc Julien Bréal. C'est un livre blanc en fait sur comment réussir avec un blog en 2017. Il y a 6 experts qui donnent des conseils pour vous aider à réussir donc avec le blogging en 2017. Donc bah, certaines personnes que vous connaissez régulièrement parce que je les ai interviewées ou qui ont participé sur conseilmarketing.com. Donc Rudy Viard, Valentin Blanchot, Anthony Rochant, Ludovic Salen, Jean-Christophe Dichamp et bien sûr moi-même. Donc ben, j'ai écrit un petit article qui dure, on va dire, un bon quart d'heure, une demi-heure. Donc il y a aussi, donc bien sûr, comme je vous disais, les autres participants qui ont mis pas mal d'informations. Et là, en fait, ben, je vais vous présenter ma petite partie. Voici les grandes lignes. La première chose, en fait, c'était, la première question, c'était quel type de contenu créer, à quel rythme et comment se faire connaître. Alors, d'abord, je sais ce que je disais hein, à Julien. La première chose, c'est se dire, ok, créer du contenu, oui, mais quel contenu et surtout quelle efficacité. Pour moi, en fait, je le vois bien, les articles qui marchent le mieux, qui permettent de se positionner sur des mots-clés importants, qui permettent de générer du trafic, c'est ce que j'appelle moi les articles piliers, les articles de référence. Généralement, il faut au minimum 1500 mots, c'est plutôt 2000-2500 mots. C'est vraiment le tour d'un sujet complet avec les 7 W, when, why, where, how much, etc. Donc en français, c'est qui, quoi, comment, avec qui, combien, pourquoi et où. Donc quand on fait ces 7 W-là, on répond vraiment à l'ensemble des questions. Après, on recherche en fait sur internet quelques informations complémentaires parce que ben on n'a jamais le monopole des bonnes idées. Et là, on va vraiment au fond du sujet. Alors, bien sûr, quand on fait un article comme ça, on va pas juste se contenter de l'écrire et dire ok, c'est super, j'ai écrit un super article, maintenant à vous de venir. Non, bien sûr, on va faire de la promotion et on va par exemple citer des influenceurs dedans, on va citer des marques, on va faire un certain nombre de choses qui vont permettre de faire une promotion. Après, il y a ce que j'appelle moi les articles easy writing. Easy writing, c'est par exemple un petit article, c'est relais d'un événement, une publication d'une vidéo, d'une infographie qu'on a faite. C'est un truc qui prend pas beaucoup de temps, ça prend une demi-heure, une heure maximum, même pas, hein. On va dire moins d'une heure. Et le but en fait, c'est de faire vivre un petit peu son site et montrer à Google qu'il y a des choses qui se passent. L'autre point en fait, c'est ce que j'appelle moi les articles SEO. Les articles SEO, ce sont des articles qui font entre 500 et 1000 mots. Ce sont des articles qui sont faits pour se positionner sur des mots-clés, des articles qui sont vraiment faits pour Google parce qu'en fait, on veut être présent sur les mots-clés que tapent les internautes sur Internet. Là encore une fois, on n'arrivera pas forcément à être présent sur des mots-clés simples. Hein. Par exemple, je ne vais pas me positionner sur conseil marketing en deux mots. Mais par contre, je pourrais me positionner sur conseil pour réussir en marketing B2B ou conseil marketing B2B qui sont un peu plus longs. Donc on est sur des expressions plus longues, moins concurrentielles et en fait le but c'est d'être présent sur le maximum d'expressions qui sont proches de ce que recherchent ces prospects sur Internet. Le dernier point, c'est ce que j'appelle moi les articles viraux. Ce sont des articles en fait qui se rapprochent un petit peu de l'easy writing, mais qui sont beaucoup plus pensés pour être partagés. C'est-à-dire que je vais pas juste écrire un article et dire voilà bon c'est fait. Non, je vais faire vraiment un article qui va mettre du sentiment, qui va mettre de l'émotion, qui va faire quelque chose qui va être original et qui va être partagé. Alors c'est par exemple des séries d'images, hein, moi je le fais avec mes séries d'images sur le service client. Ça peut être des articles polémiques, c'est-à-dire que ben je vais donner un avis tranché qui vont à contresens de la majorité des gens. J'essaie de faire passer de l'émotion. C'est par exemple pourquoi je ne ferai jamais ça ou tous ceux qui disent que machin c'est nul, n'y connaissent rien. Par exemple, moi je suis en train d'écrire un article qui est pourquoi tous ceux qui disent que Facebook en B2B sont nuls sont has-been. Parce que c'est vrai, si vous êtes dans le B2B et que vous pensez que Facebook est pas du tout fait pour vous, vous êtes vraiment has-been. Là, typiquement, ce sont le genre de billets d'émotion qui marchent bien parce qu'en fait ça va faire réagir les gens. Et surtout si vous provoquez un petit peu des gens qui sont un peu à contresens de cette idée-là, bam, ça peut marcher. Alors bien entendu, si vous êtes trop dans la polémique, hein, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement se dire, ok, je vais dire ça dans mon article et puis après je minore mon truc, je dis bon ok d'accord, je peux comprendre que ce soit pas le cœur de sujet de faire du Facebook, mais c'est quand même dommage de s'en priver. Donc je mets ça en fait en petit bémol et ça permet d'éviter d'avoir de se faire passer en fait pour un clown et un charlot quoi, voilà. Après, on peut également faire du livrement collaboratif, comme le fameux livre que on voit ici, donc auquel j'ai participé. Encore une fois, c'est une technique de création de contenu et de génération de trafic qui est qui est vraiment hyper simple, c'est-à-dire que on est quelqu'un qui n'a pas de trafic, qui n'a pas de notoriété, qui n'a pas de visibilité. On interroge de manière qualitative ces personnes-là et ensuite après on génère du trafic parce que moi et les autres auteurs forcément on va faire un relais et donc ça va générer du trafic sur le site internet. Donc des classiques en fait hein, de la génération de trafic. Alors, je précisais également dans le bouquin, c'est que depuis quelques années, en fait, hein, faire un super article, un article pilier, un article viral ne suffit pas. Hein. Il faut bien sûr, comme je disais, se distinguer des concurrents, soit en faisant des articles supérieurs. Par exemple, hein, vous repérez sur BuzzSumo et des choses comme ça, Social Bearing, des articles qui ont super bien marché. Et on va faire 2-3 fois mieux et on va bien sûr en parler aux personnes qui ont relayé ça. Donc, on peut faire une forme ou un fond différent, faire de la vidéo, faire de l'audio, faire du podcast, faire des images, faire une infographie, etc. etc., etc. Donc on peut identifier les articles en anglais qui peuvent être intéressants, encore une fois via BuzzSumo, Twitter, etc. Et on se dit, bah tiens, ça c'est un super article qui marche super bien en anglais, bah, je vais en faire une traduction en français. On peut également utiliser des outils comme SEMrush pour, moi j'utilise beaucoup, hein, SEMrush qui permet en fait d'identifier les mots-clés qui génèrent le plus de trafic chez les concurrents. Enfin, n'oubliez pas la promotion, comme je le disais, je l'ai encore dit et je le redis, si vous ne faites pas de promotion, ça ne sert à rien de faire du bon contenu, vous devez consacrer du temps à faire la promo comme, ou du multi-contenu, comme moi je suis en train de relayer cet article-là sur mon podcast, sur mon YouTube, etc., etc. et sur mon Facebook aussi. Alors, à partir de la promotion, moi, je dirais que Facebook fonctionne très bien en B2B et Facebook aussi en B2C. En B2B, ça sera un petit peu moins vrai pour Facebook. Twitter fonctionnera un peu mieux en B2B parce qu'en fait, on va pouvoir directement contacter les marques. Donc, tiens, voilà, je vous ai cité dans tel article. Voilà. Pour Facebook, j'ai quelques articles sympas aussi. Moi, généralement, je tague les personnes sur les photos, sur les vidéos. Par exemple, sur le bouquin là que vous avez vu là, et ben en fait, on m'a tagué sur la photo de la couverture et tout ça. Donc, on peut également animer des groupes. On peut regrouper des influenceurs dans des groupes ou des personnes qui sont liées dans une thématique. Un groupe, par exemple, les startups français ou les community managers francophones, c'est ce que j'ai. Hein. Si vous recherchez community manager francophone, vous tomberez sur un des groupes que je anime sur le community management. Voilà. Alors en B2B, on sait très bien que Facebook est moins pertinent, mais on peut faire du Facebook Ads qui est vraiment vraiment intéressant, en particulier par exemple pour retargeter des profils ou retargeter des gens en fait qui sont venus sur votre site internet ou faire du ciblage selon par exemple les directeurs commerciaux, les directeurs marketing, etc. etc. Alors bien entendu en B2B il y a aussi LinkedIn qui est très très fort, hein, c'est vraiment devenu une alternative crédible à Facebook et de plus en plus de gens vont se connecter tous les jours sur LinkedIn, vous vous rendez compte, tous les jours sur LinkedIn alors qu'avant c'était vraiment quelque chose qui est rare. Alors faut pas non plus dire que LinkedIn c'est la solution miracle, hein. Beaucoup de gens qui sont tous les jours sur LinkedIn, c'est beaucoup de gens qui sont dans le marketing, qui sont dans la communication, qui sont des consultants, qui sont des freelances, et c'est pas forcément des dirigeants, c'est pas forcément des acheteurs, mais ça commence à devenir le Facebook des professionnels. Voilà. Alors, sur Twitter, c'est important d'avoir une communauté engagée et importante. Sinon, en fait, vous aurez peu d'interactions. Moi, je le vois bien, j'ai une très grosse communauté sur Twitter. Et pourtant, en fait, ben, les interactions sont pas aussi fortes qu'on pourrait s'imaginer sur certains comptes. En fait, hein. Il y a quelques personnes que je connais qui ont à peu près 10 fois moins de suiveurs que moi, mais qui ont autant d'interactions, tout simplement parce que ben, ils ont une communauté qui est beaucoup plus active, qui sont engagés, qui ont discuté. Moi, en fait, faute de temps hein, et de volonté, Twitter, j'essaye d'engager les personnes, d'interagir, mais j'essaye plutôt en fait d'automatiser une partie du contenu parce que j'ai pas forcément le temps. Et c'est pas Twitter, ce n'est pas le cœur de ma stratégie. Moi, ma stratégie, c'est plutôt du blog, du référencement. Je me suis mis un petit peu à faire du Facebook et du YouTube depuis quelques temps pour essayer d'augmenter ma portée, mais ce n'est pas le cœur de ma stratégie et sincèrement, je peux le comprendre que certaines personnes préfèrent plutôt l'un ou l'autre. Hein. Certaines personnes, même comme Frédéric de Bailleul, ne sont présents quasiment que sur Scoopit. Et si vous regardez son Scoopit de formation 2.0, hein, vous verrez que c'est un Scoopit qui est vraiment top. Hein. Là, vous tapez formation 2.0 Frédéric de Bailleul. Vous tapez ça sur Google. Voilà. et ça s'appelle donc Time to Learn. Et vous verrez que lui, dès qu'il tweet, il partage quelque chose sur son profil, et ben ça explose un petit peu. Il a beaucoup de partages et c'est ce qui l'anime vraiment le plus. Voilà. Alors, moi, ce que je conseille sur Twitter, c'est d'utiliser un petit outil comme Crowdfire, qui est ici, hein, Crowdfire App, vous tapez un crowd comme la foule et fire comme le feu, qui permet d'ajouter des gens, supprimer des gens, envoyer des messages automatiques de bienvenue, etc., etc. Alors moi, le message de promo, de bienvenue, il est pas trop promo. Il y a souvent en fait un livre blanc à télécharger gratuitement, sans formulaire, parce qu'autrement, vous imaginez, vous dites bonjour à quelqu'un et ensuite donne-moi tes coordonnées, c'est pas terrible. Ouais. Voilà, partager du contenu de temps en temps, en échange du temps passé. Hein, n'hésitez pas à produire du contenu qualitatif, etc., etc. Parce que sur Twitter, si vous faites que de la promo de vos propres contenus, ça marchera pas. Voilà. Alors, au niveau des contenus que vous produisez sur votre blog, il faut éviter de faire attention à de la mauvaise qualité. Sauf si vous faites du contenu SEO qui est un petit peu planqué. Il faut toujours se dire, est-ce que moi je vais apprendre quelque chose ? Moi je me dis toujours ça, est-ce que en lisant mon texte, moi aussi je me dis, ah waouh, c'est vachement sympa. C'est important parce qu'à un moment donné, moi j'avais fait trop d'interviews, j'avais fait trop de contenu de mauvaise qualité. Je reconnais, je voulais écrire un article quasiment tous les deux jours, hein, j'en faisais 3-4 par semaine et j'avais baissé la qualité et forcément c'est moins bien. Donc il faut plutôt se dire, tiens, je vais faire de la qualité dans mes articles piliers, quitte à en faire moins. Par contre, pour les articles SEO, là, moi tout simplement, ce que je fais, c'est que je les publie à une date antérieure de la date du jour et ensuite j'en fais un relais sur Twitter, voyez à mon compte principal ou un compte secondaire quand c'est du contenu vraiment pas terrible, et en fait comme ça c'est relayé. Donc le contenu SEO, on peut en faire tous les jours. Moi par exemple, là je suis en train de faire encore un audit de contenu pour Eloquent.com. Donc en fait c'est un éditeur de solutions d'écoute client et d'études de satisfaction, mais également une solution de CTI, SVI, numéros spéciaux, numéro de téléphone. Et en fait, tout simplement, je suis arrivé sur une situation où il n'y avait pas grand chose en référencement. Le trafic était vraiment quasi inexistant, enfin pas quasi inexistant, mais très faible sur le site internet, même si la solution s'adresse plutôt aux PME haut de gamme et aux grandes entreprises. Le trafic était faible et donc tout simplement, j'ai fait un audit de contenu. Et là, il y a 20 articles qui sont programmés. Ça m'a pris une journée à peine pour créer ces contenus-là grâce à un audit des contenus existants et se positionner sur des mots-clés importants. Donc voilà. Donc ce qui est important, donc c'est de créer comme ça ce contenu SEO. Si vous voulez du contenu avec du succès sur le court terme, voilà, j'ai marqué long terme, mais il faut dire court terme, la clé c'est de faire du super contenu ou du contenu polémique pour tenir des liens, parce qu'en fait on sait très bien que le SEO, il y a des paliers. Même si vous faites un article tous les jours sur des expressions, vous n'arriverez pas à vous positionner rapidement pour avoir beaucoup de trafic, parce que Google, le temps qu'il voit, il analyse, il voit si les gens restent longtemps, etc., etc. Donc le SEO c'est sur le long terme. Si vous voulez faire du court terme et générer du trafic à court terme, il faut plutôt faire du super contenu, engager les influenceurs, faire de la publicité, faire du contenu polémique, et là vous aurez du trafic sur le court terme et non pas sur le long terme. Alors, et il est vraiment aussi important d'écrire sur une personne et pas sur une thématique. Il y a beaucoup de gens qui disent, tiens, moi je vais écrire sur les études de marché, ou je vais écrire, tiens, sur le web marketing. Non, il faut écrire sur une personne, par exemple les freelances en marketing ou les PME dans le B2B. Il faut avoir une cible, et comme ça c'est beaucoup plus simple, parce qu'autrement on commence un petit peu à être trop générique, on sort un peu du cadre, on n'est pas bien sur les mots-clés, et puis l'article ne va pas toucher la personne. Tandis que si vous pensez véritablement à une personne, c'est beaucoup simple, beaucoup plus simple. Voilà. Une fois que vous écrivez votre article qualitatif, donc la promo, moi ce que j'utilise, c'est que j'ai une checklist. Hein. Si vous êtes abonné à la starmarketingacademy.com, vous verrez que je publie régulièrement des checklists ou des astuces pour faire la promo. Hein. C'est simple, c'est super important d'avoir comme ça, dès qu'on publie un très bon article, on va faire ça, on publie un certain nombre de choses qui permettent en fait de donner de la visibilité à ces contenus. Alors, les super contenus, donc les articles de très bonne qualité, généralement ont une durée de vie qui est importante parce que c'est du contenu intemporel, donc il faut programmer des repasses régulières, par exemple des tweets X jours après, les mettre en fait sur votre compte Twitter, Facebook, LinkedIn avec buffer ou sans buffer, ou avec clock tweets, etc., etc., pour pouvoir en fait ensuite leur donner de la visibilité. C'est-à-dire que moi je programme par exemple un tweet maintenant, au jour du passage. 3, 4, 5 jours plus tard, j'en programme un. 2 semaines plus tard, j'en programme un. Bref, j'essaye comme ça de donner une audience multiple à des contenus qui sont vraiment très bons et qui méritent en fait d'avoir une visibilité. Pas dire, tiens, bam, j'ai publié, je fais la promo une fois et c'est fini. Non, il faut programmer dans le temps. Des articles de super qualité doivent revenir régulièrement. Vous devez en profiter. Vous avez mis 2 heures, 3 heures, 4 heures à écrire un article. Il faut en faire la promotion. C'est super important. Voilà. Alors, s'il y a un blogueur qui démarre, moi je le conseille, c'est de créer un socle de contenu pour son blog, une petite dizaine d'articles, qui lui permettront tout simplement, une fois qu'il a créé ses 10 articles, de créer un livre blanc. Et donc, une fois qu'on a fait ce socle-là, qu'on a rédigé son livre blanc qui sera un bonus, et bien tout simplement, on va rédiger des articles sur d'autres sites internet, par exemple du guest posting, par exemple, en fait, on va acheter aussi des liens, acheter des contenus. Quand je dis acheter des liens, c'est acheter des articles sur des blogs de grande envergure pour tout simplement ici avoir de la visibilité et gagner en fait en influence en étant visible sur des sites qualitatifs, par exemple conseil marketing, par exemple web marketing com, etc., etc. Donc en fait le but c'est d'aller capter un petit peu de la visibilité sur ces sites là, mon site, d'autres sites, via du guest posting ou de l'achat d'articles sponsorisés, puisqu'en fait il faut pas rêver, c'est même si vous écrivez des super articles, si vous n'avez pas une technique de promotion pour faire venir les gens, c'est-à-dire soit vous le faites vous-même en faisant de la visibilité, soit vous payez, vous aurez la difficulté à faire venir les gens parce que malheureusement le temps de lecture et le temps de consultation des articles, des contenus, il est toujours le même, hein, les journées ne font que 24 heures, même si on peut gagner un petit peu de temps parce que grâce à la mobilité on peut consulter des trucs sur son smartphone, dans les embouteillages. Si vous êtes amateur de conseil marketing, vous savez que j'ai mon podcast sur Audioboom ou sur iTunes, donc vous pouvez le consulter dans la voiture, dans les transports. Ouais, ok, d'accord, vous pouvez consommer un petit peu plus de contenu, mais au bout d'un moment donné, il faut bien que vous dormiez, il faut que vous mangez, que vous voyez votre famille, il faut que vous travailliez. Donc forcément, il y a une telle concurrence pour le contenu qu'il faut essayer de se distinguer. Alors, comme je le disais, distinguer par la voix, c'est-à-dire son ton, hein, sa ligne éditoriale, mais également être visible dans la masse immense, on parle parfois d'infobésité, de contenu qui existe sur Internet. Voilà. Donc, l'autre tendance, c'est bien sûr aussi de créer du trafic via Google, parce que tout simplement, on voit bien, le SEO commence à avoir ses limites. De plus en plus d'entreprises ont des stratégies de création de contenu, de référencement, et c'est dur d'émerger du lot. Moi je le vois, hein, conseilmarketing.com, c'est moi qui le tiens depuis 10 ans, même plus de 10 ans maintenant. En juin, ça fera 11 ans. Au début, c'était super simple. On faisait un super article et on faisait un peu de promo et hop, c'était fini. Maintenant, il faut vraiment s'arracher. Il faut vraiment faire de la promo. Il faut vraiment faire du multicanal. Il faut être vraiment présent partout. Il faut jamais lâcher. C'est vraiment devenu très difficile de réussir tout seul. Donc en fait, il faut véritablement se dire qu'il faut investir. Il faut être différent. Et parfois payer. Moi maintenant, j'ai plus de remords, hein, vraiment, je dis clairement, j'ai plus de remords à payer pour avoir du trafic, hein, par exemple du Facebook Ads, comme je le disais, qui est assez intéressant avec de la publicité ciblée. On peut également proposer des vidéos ou des choses comme ça pour des e-books, des vidéos sur Facebook Ads pour tout simplement capturer des emails, parce que c'est compliqué d'aller vendre directement sur Facebook, les gens ne sont pas là pour ça. Puis s'ils sont sur Facebook, ils sont là pour se distraire. Vous pouvez à la rigueur capturer un email, mais les faire sortir la carte bleue, c'est compliqué. Ou alors il faut vraiment avoir une offre irrésistible et une offre qui est de faible montant. Généralement sur Facebook, on va plutôt essayer d'aller capturer un prospect, les mettre dans un tunnel de vente et ensuite les convertir. Donc ça c'est vraiment intéressant de réfléchir à ça. C'est d'autant plus vrai que c'est difficile de réussir seul, comme je disais, sans moyens, alors que en mettant un petit peu d'argent sur la table, tout de suite on va pouvoir gagner du temps, être beaucoup plus performant et d'aller beaucoup plus vite. Voilà. Une autre raison de payer tout simplement, c'est que il y a beaucoup de blogs en fait, je trouve moi vraiment, qui commencent à être des copies de copies de copies. Je vois beaucoup de gens qui sont dans la copie copies d'articles sur comment gagner de l'argent sur internet, sur le blogging, etc. etc. En plus, il y a les entreprises qui payent des rédacteurs, qui font des contenus, toujours ce que moi je faisais il y a quelques années, les 10 bons conseils pour, ou 10 bonnes raisons, les 10 règles d'or. Je les vois de plus en plus, et en plus en moins bien. Et c'est ça qui est souvent grave, c'est qu'en fait les gens copient des choses qu'ils ont vues ailleurs, mais en moins bien. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit un truc, les 7 bons conseils, moi quand je donne vraiment un truc, c'est vraiment de la qualité, c'est quelque chose où j'apporte des vrais conseils, et je vois en fait des pâles copies où il y a 10 bons conseils pour faire ceci, cela, et c'est 3 lignes, et c'est des trucs déjà vus, c'est inutile. Comme je le disais, il n'y a pas la phrase « Oh, même moi j'ai appris quelque chose en lisant ce truc-là ». Et vraiment, c'est dommage, parce que les gens mettent des efforts, ils mettent du temps, et puis ils font une copie, mais qui est moins bonne. C'est un petit peu comme les produits chinois d'il y a 10 ans, qui étaient en fait moins bons que les produits français. C'était de la copie, et qui pétaient, qui n'étaient pas bonnes. Là, maintenant, les Chinois font mieux que les Européens, ils font des produits originaux, ils donnent des coups de pied dans les fesses à nos amis d'Apple. Donc on voit bien qu'il vaut mieux être différent, think different, et être beaucoup plus original et choisir une ligne tranchée. Par exemple, là, il y a de plus en plus de gens sur internet qui commencent à tutoyer les visiteurs pour avoir plus de proximité. Au début, moi, je trouvais ça un petit peu bizarre, et il y a pas mal de gens qui m'ont dit bah non, moi aussi je trouve ça bizarre, mais en fait il y a pas très longtemps un youtubeur m'a demandé de faire un guest post chez moi, et puis qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit tiens, je vais tutoyer les gens. Alors ça m'a fait bizarre, parce que écrire un article avec cette voix, ce ton, était vraiment étrange, surtout que il y avait un petit peu moi j'écris beaucoup en parler, hein, donc ça me gêne pas trop, mais ça allait encore plus loin. Il y avait un petit peu des insultes, mais des trucs un peu proches du jargon et de l'argot que du texte écrit. Donc bon, c'est un positionnement, ça marchera très bien sur une cible un peu plus jeune et un peu plus junior. Donc voilà, il faut se dire comment je vais pouvoir me différencier un petit peu. Donc casser les codes, c'est important, soit sur le fond, soit sur la forme, c'est quelque chose qui est important. Les blogueurs, comme je le disais, les vidéos dans les articles, etc., etc. Donc après, dans le bouquin, on m'a demandé 3 plugins essentiels pour réussir sur un blog. Alors moi, 3, ça me va pas, hein, c'est trop peu. Comme je disais, moi j'aime bien apprendre des choses, et donc je peux pas me contenter d'en mettre 3, donc j'en ai mis une petite dizaine. WordPress, Yoast, SEO, c'est vraiment pour moi le plugin de référencement le plus efficace pour un blog, hein, Yoast SEO, YOAST SEO, Twittle Post. Alors, publier les vieux articles, ça c'est la publication automatique du contenu, c'est bien pratique, on a des super trucs. La sécurité, si on a un blog WordPress, c'est super important. Item Security et WordFence, indispensable. WP Rocket, qui est fait par Julien Potier, un des petits français, un cache qui est très puissant, qui permet d'accélérer le site web. Buffer.com, bon, la publication de contenu. ClickDesk, c'est la solution de chat que j'utilise sur un certain nombre de sites internet. Alors je ne le mets plus sur Conseil Marketing, parce que j'ai beaucoup de trafic, et là je suis en train d'écrire un bouquin papier, donc j'ai plus le temps, mais c'était vraiment quelque chose que j'utilisais beaucoup. Mailchimp et Aweber, 2 solutions d'emailing. Alors si vous ne savez pas lequel prendre, tapez sur Mailchimp ou Aweber sur conseilmarketing.com et vous verrez les différences entre les deux. Après, un outil qui est bien pratique, c'est Ad Inserter, qui permet d'ajouter des petites publicités facilement sur votre blog. Alors encore une fois, la pub ne permet pas de vivre correctement d'un blog sur internet. Néanmoins, quand vous avez beaucoup de trafic comme Conseil Marketing, c'est quand même intéressant, parce que c'est des revenus qui sont à peu près réguliers. Vous êtes sûr de gagner tant d'euros tous les mois, et bon, c'est vraiment simple à faire, vous mettez ces pubs là et c'est fini. Mais je le dis bien, ça ne permet pas de vivre du blogging. Temtrive, et puis si vous êtes en B2B, forcément faut pas mettre des pubs AdSense sur votre blog, autrement vos concurrents vont s'empresser d'aller faire de la pub dessus. Alors vous avez exactement un outil qui est très pratique, c'est Temtrive. C'est un éditeur WYSIWYG de blog WordPress, hein, qui est vraiment sympa, qui permet de créer des landing pages, créer des pages d'accueil, etc. C'est vraiment très très bien. Après vous avez Subscribe to Comment, hein, qui permet aux gens de s'abonner aux commentaires, même si les commentaires maintenant ont disparu quasiment, ils ont été transférés sur Twitter, Facebook, etc. C'est quand même intéressant, parce que les gens peuvent s'abonner. Et le dernier, qui est un petit peu cher, hein, moi que j'utilise sur certains blogs, c'est Sumomi. Ça permet de capturer des emails de manière un peu plus puissante. Donc Sumomi bien cher dès qu'on a un peu de trafic. Voilà. Alors La troisième question, c'était quels sont les supports de communication que tu recommandes pour créer du trafic? Alors, d'abord, comme je le disais auparavant, il y a des carrefours d'audience, il y a des gens qui sont déjà bien placés, qui ont déjà de la visibilité, qui ont déjà du trafic. Et le but, en fait, c'est d'aller capter un petit peu de ce trafic parce qu'au début, vous ne serez pas visible. Et de toute façon, même si vous êtes un blogueur lambda, c'est compliqué d'aller gagner de la visibilité en dehors de votre communauté. Donc, il faut aller en dehors de votre communauté, votre cercle d'influence, et aller sur ces sites qui ont déjà du trafic. Et vous allez publier en guest posting, vous allez optimiser votre conversion, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment important. Donc créer du trafic, c'est bien, et optimiser la conversion, c'est bien. C'est aussi important. Parce que si vous faites venir pas mal de gens sur votre site internet et qu'il n'y a quasiment personne qui laisse son email pour que vous puissiez envoyer des promos, des bonus, etc., etc., ça ne sert à rien. Donc en fait, il faut absolument que votre blog soit fait pour convertir les internautes en abonnés, donc sur votre liste de prospects, récupérer les emails. Il faut trouver une valeur en échange d'un email. C'est-à-dire une valeur, ça peut être un bouquin, ça peut être une série de cours gratuits, ça peut être des vidéos, etc., etc., etc. C'est vraiment essentiel. Alors, pour vous donner quelques métriques, hein, grosso modo, un blog à peu près standard ou un site à peu près standard fait 1% de conversion. Hein. Si vous faites plus de 1%, c'est que vous êtes un peu mieux que la moyenne. Le but, c'est d'arriver quand même à entre, on va dire, 2 et 3%. C'est quand même pas mal en termes de trafic. Hein. Quand vous avez un gros trafic, si vous avez un trafic hyper ciblé, oui, vous pouvez faire 10 ou 20%. Mais là, c'est du trafic hyper ciblé et vous avez peu de trafic sur votre site internet. Voilà. Mais ça peut être aussi un choix. Voilà. Alors le dispositif promo, vraiment comme vous avez, est vraiment essentiel. Il faut essayer de gagner en influence, surtout au départ. Par exemple, en fait, les interviews d'influenceurs comme là le bouquin auquel j'ai participé, le networking en physique ou en réel, LinkedIn, il est vraiment très très fort. LinkedIn en B2B, c'est vraiment. Moi, je l'ai redécouvert il y a à peu près un an et demi. Et c'est vrai que waouh, je me suis dit merde, on peut faire tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc c'est vraiment essentiel. Donc en fait, il faut se dire que. Au départ, si vous créez un blog, vous aurez quasiment pas de contenu en référencement naturel venant de Google, parce que en fait, vous êtes tout nouveau, vous n'êtes pas positionné sur beaucoup de mots-clés, donc il faut les capter le trafic. Moi, je vois bien, il y a des paliers pour les sites internet. Hein. Quand on démarre, il y a 20-25 visites par jour, ensuite on est à 100, ensuite on est 150, 200, 300, ensuite on va passer à 500, ensuite on va passer à 1000, 1500. Bref, il y a des paliers et ces paliers se font au fil du mois. Donc, beaucoup de gens, en fait, se casse le nez parce qu'il se dit tiens voilà je vais ouvrir un blog, je vais avoir du trafic tout de suite, mais non ça ne marchera pas sauf si vous mettez des opérations pour générer du trafic. Voilà, des web séminaires aussi, des top lists, des interviews, ça c'est vraiment essentiel. Voilà, alors parmi les sujets de tendance, ça c'était la quatrième question, l'avenir du blogging hein, tout simplement. Comme je le disais précédemment, il faut démarrer sur une cible, un persona. Vous pouvez taper sur conseilmarketing.com persona, PERSONA, et en fait, on va personnifier, on va faire son client type, et on va savoir ce qui les intéresse, quels sont leurs problèmes, ce qu'on va leur vendre, s'ils sont d'accord pour commander après les produits que vous allez leur proposer. L'erreur, comme je disais, c'est de bugger sur une thématique et ne pas savoir comment on va monétiser son audience. Moi, ça m'est déjà arrivé il y a quelques années, sortir un blog, avoir du trafic, et puis en fait, je me rends compte que les gens sont pas prêts à acheter. Et là, boum, tout tombe à l'eau parce que comment on va faire? On passe du temps, on a créé du trafic et puis les gens n'achètent pas ou achètent des produits pas chers. Là, on ne gagne pas sa vie. Donc, il faut vraiment se dire comment on va pouvoir gagner sa vie. Je le disais tout à l'heure, hein, c'est pas avec de la publicité, c'est pas en vendant non plus des e-books à 7 euros. L'e-book à 7 euros, c'est fait pour capturer des prospects. L'intérêt après, c'est vendre souvent de la prestation, c'est vendre du service, c'est vendre du coaching. C'est là qu'on va vraiment gagner de l'argent. Voilà. Alors, si vous voulez vous différencier, il y a plein de stratégies qui existent. Hein. La stratégie Océan Bleu de King et Mauborgne. Vous avez aussi Seth Godin qui a écrit son livre La Vache Pourpre. Autrement, vous avez le judo marketing. Vous tapez toutes ces expressions-là sur conseilmarketing.com et vous aurez des informations. Voilà. Si par exemple, tout le monde fait des sujets sérieux avec des articles de fond, on va faire l'inverse. On va faire de la vidéo, du podcast très court avec un ton très décalé et là, on va pouvoir réussir à faire des choses sympas. Je vous donne un exemple. Chris Poisson, je sais pas quoi, Poisson Fécond, voilà. Hop, là c'est quelqu'un qui est vraiment assez assez malin. Voilà, je vous le mets ici. C'est un gars qui était totalement inconnu, mais vraiment totalement inconnu. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, il a tout simplement sorti une petite vidéo où il a indiqué quels étaient les salaires des youtubeurs les plus célèbres. Ah tiens d'ailleurs, tiens, je vois une technique de... une technique de banane rouge. Il est malin le gars. Il a pris la vidéo de Chris et il a uploadé et il s'est fait 11 000 vues. Oh là là. Donc là, ce qui se passe, c'est que la vidéo originale, c'est Chris Poisson Fécond qui tout simplement a fait une vidéo sur les salaires des youtubeurs. Comme c'était un truc qui faisait un petit peu rêver, qui était un petit peu polémique, et bah tout simplement il a fait un gros trafic parce que tout le monde s'est dit mais comment ils gagnent ces gens-là, etc. Ça fait un peu rêver. Et là, boum, il a fait un trafic de malade. Donc en fait, il a fait, je sais plus, 16 millions de vues. Enfin, on va regarder la vidéo juste après. Et là, ce qui est marrant, c'est quand j'ai tapé ça sur Google, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis tombé sur une autre personne qui a pris la vidéo, qui l'a détournée et qui grâce à ça a récupéré 11 000 vues. Donc en fait c'est pas très légal, je trouve. C'est pas très légal, mais bon, il y arrive quand même. D'ailleurs il est même mieux positionné, vous voyez, que l'original. Il est vraiment c'est pas très légal parce que entre guillemets il a volé la vidéo d'une personne et s'est attribué les droits. Néanmoins c'est assez intéressant. Et donc quand on parlait du fameux Chris là il y a deux secondes, donc il est quand même presque à 1 million de vues, 1 million de vues pour sa vidéo, 39 pouces bleus, etc., etc. Donc il est vraiment très très fort là-dessus, hein. Il a fait un sujet un petit peu polémique et comme ça il a réussi à capter du trafic. Avant cela, ses vidéos faisaient pas grand-chose et il a juste fait ce truc-là et là, boum, son truc a vraiment explosé. Voilà. Alors, le fait d'aimer un sujet aussi, c'est un petit plus, hein. Si vous voulez être présent sur une thématique, il va falloir écrire du contenu que vous aimez, il va falloir faire passer de l'émotion. Forcément, c'est comme mieux si vous aimez votre truc. C'est pas obligatoire, on peut bloguer sur un sujet à condition de gagner de l'argent. Si vous gagnez tout de suite 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300 euros par jour, vous allez être motivé à travailler. Si ça vous rapporte de 5 centimes, forcément, ça va pas avancer, quoi. Voilà. Alors, il faut vraiment se dire que le blog est un business et c'est pas un blog. C'est-à-dire qu'un blog c'est qu'un outil. Vous devez monter un business. Ça, en fait, je le dis souvent et il y a plein de gens en fait qui disent ouais, j'ai créé un blog ou j'ai créé une chaîne YouTube et j'ai gagné de l'argent. Non, le but c'est pas de créer un blog, créer une chaîne YouTube et dire je vais gagner de l'argent. C'est-à-dire je vais créer un business qui va me faire gagner de l'argent, qui s'adresse à telle personne, qui ont tel problème et qui ont tel besoin urgent et important et qui ont besoin de le résoudre. Et en fait, pour toucher ces personnes-là, je vais par exemple monter un blog, je vais monter une chaîne YouTube, etc. Donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut dire je vais monter un business qui s'adresse à des personnes et le blog ou la chaîne YouTube ou la page Facebook ou le compte Twitter ou le ceci ou le cela va être le moyen de l'atteindre. Voilà, c'est vraiment essentiel de penser comme ça. Alors, l'avenir du blogging, moi autrement, je le vois surtout avec beaucoup moins de texte, beaucoup plus de contenu fast-food, hein, parce qu'en fait, comme je le disais, il y a beaucoup d'infobésité, il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de blogs, il y a beaucoup d'articles, etc., etc. Donc d'abord, il y a la concurrence, mais en plus, les gens sont moins prêts maintenant à lire du contenu important. Parce que tout simplement, les gens sont un petit peu feignants, ils veulent pas lire du texte qui fait des pages et des pages et des pages. Ils sont plus intéressés par du contenu un peu plus fast-food, donc des images, des vidéos, quelque chose qui va à l'essentiel. Moi je vois aussi, les gens veulent plus trop des articles de fond, ils veulent surtout en fait du truc et astuce, du truc simple pour aller plus vite. C'est un petit peu dans la mentalité, aller plus vite, faire moins de choses, être un peu feignant. Donc en fait, il faut se dire que les articles chiants et longs qui font 3000 mots, ça devient de plus en plus compliqué d'aller chercher l'ensemble, je dis bien l'ensemble des personnes. Moi, c'est mon truc sur conseil marketing, mes contenus sont longs, c'est du qualité, je suis à fond sur un sujet, mais ce n'est pas ce que chercheront sur long terme tout le monde, parce qu'en fait, ils veulent quelque chose qui soit beaucoup plus facile. Et c'est pour ça en fait que je fais de la vidéo, que je fais du podcast. Mon podcast, là, vous voyez, il va durer 40 minutes quasiment, hein. Donc j'essaye de faire du qualitatif. Donc ça ne veut pas dire que le contenu texte est mort, hein, comme je le disais, la qualité est toujours importante, et Google en fait il aime beaucoup ça aussi. C'est que tout simplement, il faut faire du fast-food content si c'est votre positionnement, et que vous voulez en fait attirer un petit peu de monde. Moi le fast-food content je le fais via des images. Moi en fait tout simplement, j'essaie de faire de la bonne vieille recette, du bon produit. C'est un peu comme, je le dirais, un bon petit plat, hein. Soit en fait, bah, vous êtes pressé, vous prenez un petit fast food sur le trajet pour rentrer à la maison parce que vous êtes pressé, que vous n'avez pas envie de vous faire chier. Soit en fait, bah, vous voulez avoir une bonne recette, un bon petit truc, un truc sympa, et là en fait vous faites du qualitatif, et là c'est quelque chose que vous avez sur mon blog. Donc voilà, à vous de décider. L'un n'empêche pas de faire l'autre, mais c'est clair que sur le long terme, le gros contenu, la grosse recette, le gros texte va être compliqué à utiliser, et les formats courts sont toujours privilégiés. Alors moi, après, j'ai testé quelques formats courts. C'est pas évident parce que faire court et intéressant, bah, il faut faire du montage. Je sais que certaines personnes font de la vidéo et grosso modo, bah, ça dure quoi, une heure de tournage et une heure ou deux de montage pour arriver à faire une vidéo de 5 minutes. Parce que tout simplement, c'est pas juste je me filme et je parle, c'est une vidéo où il y a du montage, il y a de l'animation, il y a un petit peu des changements de pattern, comme disait Nicolas Penn. C'est-à-dire qu'on parle en fait, et puis ensuite, tac, on fait un petit changement, une petite animation, on fait un petit truc, et c'est vraiment un travail. C'est pas filmé, c'est pas un truc qui doit être chiant, ça doit être quelque chose qui doit être qui doit bouger, qui doit être interactif, etc., etc. Donc moi c'est pas ma recette parce que ça prend du temps, c'est une autre manière. Moi vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui est plus je donne des conseils, je te dis des choses, au fond des sujets. Mais n'hésitez pas, si vous voulez vous distinguer, vous pouvez faire ça, hein. Y a aucun souci, il y a encore de la place pour tout le monde. Faut juste se dire que le format doit être différent. Le format doit pas être ce que je fais là. Bon, ça c'est mon format, c'est le format conseil marketing, c'est 40 minutes de vidéo ou de podcast, et ça y est, on discute, je vous explique des choses, je vous donne des informations, mais après ça peut être du format beaucoup plus court. Ce que je vous fais en 40 minutes là, je suis sûr qu'on peut le faire, allez, en moins de 5 minutes avec un montage interactif, des trucs marrants et des choses comme ça. Alors ce sera pas tout à fait la même chose, la même cible, le même positionnement, mais on peut le faire, voilà. Alors, moi ça ne m'empêche pas en fait d'aller penser multicanal, hein. Par exemple là, le format vidéo, le format podcast, moi je le fais quasi systématiquement sur mes gros articles, et sur tous les articles en fait invités, hein, là l'interview que je fais, les articles guest posting que je fais ailleurs, je les fais systématiquement en fait en version audio podcast, parce que ça me permet en fait de quand j'ai passé du temps à écrire un contenu, ça me permet en fait de le revaloriser, de le réutiliser sur ma chaîne. Voilà. Alors YouTube, je commence un petit peu plus à maîtriser l'outil, hein. Pendant longtemps en fait, je dois avouer que j'étais pas très bon, mais c'est comme pour en SEO, il y a des paliers. Si on n'est pas bon en YouTube, on fait 10 à 30 vues pour les vidéos. Moi je suis à peu près une centaine de vues maintenant pour chacune des vidéos. C'est parce que je fais un travail de référencement, d'optimisation des titres, de description, de miniature, etc., etc. Et il faut véritablement aller réfléchir là-dessus. Faire une vidéo sur YouTube, si vous faites comme tout le monde, vous publiez la vidéo et c'est tout, ça marchera pas, quoi. Donc il faut véritablement s'améliorer. Encore une fois, c'est du travail, c'est comme le SEO. Il faut apprendre des techniques, il faut les optimiser, etc., etc. Donc le format est également différent, comme je le disais, hein, on fait souvent du fast-food sur YouTube, parce que sur YouTube, il faut être clair, hein, les gens ils sont pas ils sont pas tout le temps à vous écouter, même sur Facebook, hein, si vous avez une vidéo comme ça, comme celle que je suis en train de vous faire, les gens sont en train de faire autre chose, ils ont pas le temps de faire 40 minutes là, à m'écouter et blablater. Par contre, un podcast, ils auront un peu plus de temps parce qu'ils sont dans les transports et puis ils sont en train de m'écouter pendant qu'ils sont en train de louper leur station de métro ou louper leur arrêt de bus. Si j'y arrive, c'est que... Enfin, si ça arrive, c'est que j'arrive à dire des choses intéressantes. Mais n'ayez pas un accident si vous êtes en bagnole. Donc en fait, le truc, c'est se dire qu'il faut apprendre à faire des bonnes techniques et optimiser son contenu en fait. Alors d'ailleurs, vous pouvez le voir, hein, moi mon format il est long, et même si je fais des petites erreurs comme ça de parole, je fourche un peu, c'est pas grave, ça fait partie un petit peu du contenu et ça permet de produire des choses. Parce que si je devais retoucher cette vidéo, échanger les petits E, les A, j'ai toussé 2-3 fois parce que je suis un peu malade, à ce moment-là j'y passerai des heures. Non, ce qui m'intéresse moi, c'est 38 minutes là, 19 secondes qu'on est actuellement, et en fait c'est de produire du contenu intéressant et de vous expliquer comment je fais. Donc voilà. Il faut se dire que sur Facebook, YouTube, les gens ne seront pas capables de rester 38 minutes. Alors si vous restez 38 minutes, mettez un petit pouce bleu hein, sur la vidéo et un petit like sur Facebook parce que vous ferez partie des rares, hein, tout simplement parce que le format n'est pas adapté pour des vidéos comme ça. Si vous êtes sur, à moins que vous fassiez du repassage et que vous êtes en train de, je sais pas, de faire du ménage ou vous êtes en train de faire autre chose en même temps, ce qui arrive souvent lorsqu'on fait du YouTube, et ben en fait, tout simplement, il faut se dire que le format YouTube, Facebook sont pas faits pour faire des formats longs, parce que les gens, tout simplement, ils sont pas là à vous écouter pendant 30-40 minutes. Au contraire, ils peuvent rester 2-3 minutes, ils peuvent zapper sur une ou deux vidéos, mais très rapidement, ils diront oh là là, merde, je me suis fait embarquer avec Facebook, avec YouTube, je voulais juste regarder un truc et puis j'ai regardé 3-4 vidéos parce que ils sont fait embarquer parce que justement c'est des formats très qui permettent en fait de prendre les gens et leur faire regarder des choses parce que c'est un petit peu du temps de cerveau disponible et puis on est comme ça capté, happé par la vidéo et on peut y passer du temps, donc il faut justement faire attention à ça. Voilà. Donc comme je le disais et pour finir cette interview, il y a donc vraiment deux choses. Donc la première chose, c'est un petit peu ce que je disais il y a deux secondes, le contenu, le contenu fast-food, en tout cas le snack content, comme on dit, des contenus légers, faciles, que ce soit de la vidéo, de l'image, etc. Et il y a après les contenus qualitatifs, ça c'est vraiment des deux opposés, et malheureusement le contenu snacking va être de plus en plus utilisé sur le web, hein, parce que tout simplement les gens n'ont pas le temps, etc. Et la deuxième chose, c'est la plateformisation, c'est-à-dire qu'en fait tout simplement il y a des plateformes qui sont totalement étanches et sur lesquelles il y a des audiences. Par exemple sur Facebook en France il y a 30 millions de personnes, mais ces 30 millions de personnes vont pas tous les jours sur Google maintenant taper des choses, ils vont pas tout le temps sur YouTube, donc en fait c'est une plateforme, il y a un contenu là-dessus, donc il faut être présent. Sur Twitter il y a aussi du monde, même si c'est moins comment dire, il y a moins de trafic, moins d'engagement que sur Facebook, il y a quand même du monde. LinkedIn est devenu vraiment une plateforme à part. Si vous êtes dans le B2B, si vous n'avez pas une stratégie LinkedIn, il faut se réveiller un petit peu, même dans le B2C, hein, encore plus dans le B2C. iTunes avec que les podcasts commencent un petit peu à prendre aussi de l'envergure, même si c'est encore très ciblé et pas aussi efficace que YouTube, Facebook, etc. C'est quand même intéressant d'être présent. Voilà. Donc il faut varier ses contenus et bien sûr utiliser d'autres plateformes et ramener son trafic sur son blog qui est véritablement le camp de base qui permet en fait de capturer les emails, c'est chez vous, vous avez votre contenu à long terme, donc ça c'est vraiment essentiel. Donc le blog n'est pas mort, mais il y a plein d'autres plateformes et on le voit très bien, hein, il y a plein de gens qui n'utilisent plus Google pour rechercher des informations. Moi je le vois sur Twitter ou sur Facebook, je tape des fois sur Google des choses, hein. Il n'y a pas très longtemps j'ai cherché à faire réaliser une app mobile, et ben en fait bon ok j'ai cherché un petit peu sur Google, mais le problème que en tapant sur Google j'étais pas sûr de trouver la bonne agence parce que j'avais une app qui était un peu complexe à réaliser, et ben tout simplement j'ai mis sur Facebook un petit message en disant voilà, est-ce que vous pourriez me recommander des agences pour créer des apps mobiles évoluées, et j'ai eu une vingtaine de réponses quoi. Donc en fait moi je fais ça mais d'autres personnes font ça. Donc, se dire que les blogs, ok, les blogs, c'est le trafic de Google, hein, majoritairement, il ne faut pas se le cacher. Hein. Les blogs, c'était SEO friendly, c'est le trafic de Google. Or, en fait, maintenant, une partie du trafic n'est plus sur Google. Le trafic est sur LinkedIn, le trafic est sur Facebook, le trafic est sur YouTube, le trafic est sur iTunes, un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Et donc il faut être présent sur ces différents carrefours d'audience, au moins une présence minimum, et si vous voulez vous différencier, vous pouvez avoir une présence exclusive sur ces différents canaux. Voilà. Alors c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si jamais vous voulez en savoir plus et vous pouvez lire le bouquin de Julien Bréal, hein, vous allez sur son site internet et vous tapez le mot-clé. Autrement, je vous invite à venir me voir. Alors j'ai sorti un produit qui s'appelle la Star Marketing Academy. Hein, si vous ne la connaissez pas encore, starmarketingacademy.com, c'est tout simplement ma formation vidéo au growth hacking. C'est-à-dire que je vous donne à peu près tous les mois une heure de vidéo avec des trucs et astuces pour tout simplement attirer des prospects, améliorer la conversion, monétiser, etc. etc. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai conçu pour les gens en fait qui n'avaient pas de résultats concrets. Et en fait, le web évolue tellement vite que c'est compliqué d'être toujours à jour. Moi, je vois bien, j'ai fait des formations vidéo sur le blogging, j'ai fait des formations vidéo sur le trafic B2B, et il faut les mettre tout le temps à jour. Et moi, j'ai certaines personnes qui ont acheté mes formations et qui m'ont dit, j'ai regardé tout, j'ai mis 2-3 trucs en place, et puis faut que je regarde quand j'aurai un petit peu le temps. Le problème, c'est que je regarde quand j'ai un peu le temps, on n'a jamais le temps, et on n'arrive pas à mettre en place les infos. C'est pour ça que j'ai créé ce produit-là, parce que même moi, des fois, ça m'est arrivé d'acheter des formations vidéo et regarder un peu de trucs, disant, ouais, il faudra que je le mette en place un jour. Et le problème, c'est que quand on s'est absorbé les 10 heures ou 20 heures ou 30 heures de vidéos, on a bouffé tout son temps et on est pris par le quotidien. Donc c'est pour ça que moi j'ai fait cette formation vidéo. C'est tous les mois une heure de vidéo avec 4-5 thématiques, hein, ou 3-4 thématiques, ça dépend. Et on peut les mettre en place directement sur le terrain. Comme c'est simple, c'est rapide, hop, on met directement en place l'astuce et on génère directement du trafic, on a immédiatement des résultats. Parce que faut être clair, moi j'ai pas le temps de regarder des programmes de formation de 10h ou 20h, et là en fait j'essaie de vous donner mes petits trucs et astuces. Voilà, donc si vous êtes intéressé, star-marketing-academy.com, et c'est 25€ par mois, et vous accédez directement à la totale, à l'ensemble en fait des vidéos de la série. Il doit y avoir 30 ou 40 heures, donc c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir des résultats concrets et rapides. Ça, c'était fini pour la page pub, et donc je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt.